Bonjour mes frères et sœurs, nous allons ouvrir le Saint-Livre. Je voudrais lire avec vous plusieurs textes que nous ferons plusieurs lectures dans la prédication, mais nous allons commencer par Marc au chapitre 10, verset 23. Tout à l'heure, après ce message, nous prendrons quelques instants pour faire un appel. Plusieurs parmi nous ont besoin d'un attouchement divin. Ça peut arriver que nos vies soient bousculées et il peut arriver un moment où on a besoin, dans le cadre d'une réunion, d'un culte, d'une évangélisation, d'une étude biblique, de faire un acte de foi, vraiment. Et plusieurs parmi nous ont droit ce matin, tous ont droit, mais plusieurs ont peut-être particulièrement, parce que le besoin est grand, à faire une expérience avec Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui aimerait faire une expérience avec Dieu? Marc, chapitre 10, verset 3. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors le trou d'une aiguille, moi quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai certainement pensé comme vous, j'ai pensé une aiguille à coudre. Mais l'aiguille dont Jésus parle, c'est une petite porte. Vous savez que les villes étaient fortifiées et les gens rentraient par une très très grande porte où tout le monde, les chameaux, etc., les animaux, tout pouvait rentrer. Mais à la tombée de la nuit, les portes étaient fermées. Dès que le jour se terminait, les portes de la ville étaient fermées et sur le côté, il y avait une porte où les hommes pouvaient passer, une porte normale. Alors vous imaginez bien que pour que les chameaux qui arrivaient chargés de victuailles, etc., et il fallait, pour qu'ils rentrent dans la ville, les décharger entièrement de tout leur fardeau et les faire rentrer à genoux. Et c'est comme ça que Jésus indique que si on veut rentrer dans le royaume de Dieu, il va falloir se décharger de tous nos fardeaux et rentrer à genoux. C'est pour ça, ne vous imaginez pas faire passer quand même un chameau par le trou d'une aiguille. Il aurait des petits problèmes quand même articulaires, c'est sûr. J'aimerais qu'on fasse une autre lecture. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 26, regardez cette histoire, vous la connaissez. Mais quand même, c'est bien de la relire. Il y a des gens qui lisent ça qu'à Noël. Imaginez-vous, au temps marqué, un ange connu, l'ange Gabriel, dépêché par Dieu dans un petit village qui s'appelait Nazareth. Regardez bien, c'est belle cette histoire. N'oubliez pas qu'elle est dans la Bible pour nous. Luc chapitre 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabée, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Je peux le relire. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta et tout le monde peut dire Amen. J'avais un psaume à cœur quand j'ai commencé cette étude, cette prédication. C'est le psaume 138, ne le cherchez pas. Où David dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Je ne sais pas où vous en êtes, mais laissez-moi vous dire que c'est une expérience que nous pouvons tous faire ce matin, le jour où je t'invoquerai, pas avec ma tête ou mes habitudes, mais le jour où je t'invoquerai de tout mon cœur, tu me rassureras. Et dans ce monde compliqué, s'il y a bien une chose que le Saint-Esprit peut faire maintenant, pas demain, maintenant, c'est de vous rassurer. Il y avait un autre psaume aussi, ne cherchez pas, c'est le psaume 147, verset 5, où il est dit, « Ton intelligence n'a pas de limite. » Mes frères et sœurs, l'intelligence de Dieu n'a pas de limite. Et nous serions heureux ce matin, mais vraiment heureux, si nous pouvions dire, après quelques années de marche avec le Seigneur, car beaucoup nous sommes dans ce cas, peut-être que vous commencez à cheminer avec Dieu, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que pour ceux qui marchent avec Dieu depuis des années. Mais si vous pouviez dire, après toutes les épreuves que vous avez traversées, comme Job, après ces mois d'épreuves terribles qu'il a traversées, il a dit, je mets ma main sur ma bouche. Il a mis la main sur sa bouche, il savait qu'il valait mieux se taire. Vous savez mes frères et sœurs, il y a une chose qui est bien, c'est quand on arrive à attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est une grande progression spirituelle. Lorsque quelqu'un n'a plus besoin d'en parler aux autres, lorsque quelqu'un comme David dit, je dis à l'Éternel. Vous savez, les gens souvent s'identifient à David et ils disent, moi je suis comme David, je pleure, je souffre. Enfin, il résume un petit peu l'expérience de David. Mais David, lui, il parlait à Dieu. Je dis à l'Éternel. Oui, je mets ma main sur la bouche parce que je reconnais que tu peux tout. Vous savez ce qu'avait vécu Job ? Vous savez ce qu'il avait vécu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mes frères et sœurs, j'ai terminé mardi en disant cette loi de l'Écriture, il vous sera fait selon votre foi. C'est une loi. Dieu est un Dieu de grâce, une grâce grande, une grâce incommensurable, une grâce éternelle. Et pourtant, cette grâce, si grande soit-elle, se reçoit par la foi. Le salut est grand. Oui, il est grand le salut. Et pourtant, il se reçoit comment ? Il se reçoit par grâce ou par la foi ? C'est une grâce le salut, mais il se reçoit par la foi. La petite participation de l'homme est indispensable. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et jeudi soir, je terminais la réunion d'instruction avec un verset qui m'était venu à l'esprit. Mais je vous le dis parce que quand même, il résume bien ce qui se passe lorsque des chrétiens se rassemblent en son nom, qui chantent de tout leur cœur, Jésus est au milieu de nous. Je pense, peut-être je me suis trompé, mais je pense qu'on l'a chanté avec beaucoup de ferveur. Oui ou non ? Jésus est au milieu de nous. Et j'ai terminé avec ce verset qui s'était imposé à mon esprit, parce que il y a longtemps que ce verset n'était pas revenu à mon esprit. C'est quand Ésaïe dit, nous ressemblons à des morts au milieu de l'abondance. Et je me suis dit, mais combien de fois nous ne nous sommes pas nourris, alors que dès que nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là, le Seigneur Jésus est là, notre Père Céleste est là, pourquoi faire ? Pour nous bénir. Pourquoi Dieu serait-il au milieu de nous ? Pourquoi Jésus a dit, lorsque vous deux ou trois seront assemblés à mon nom, je serai au milieu de vous pour vous surveiller ? Pour regarder ce qui ne va pas ? Moi je crois que si le Seigneur est au milieu de nous, c'est pour nous bénir, c'est pour nous parler. Mais il y a cette loi qui fait en plus, c'est une petite parenthèse dans ma prédication, mais quand même, je sais qu'il me faut la faire. On va parler sur ce verset, rien n'est impossible à Dieu. Mais Écoutez bien, parce que je sais que plusieurs ont besoin de ce que je vais dire. La foi rend un homme heureux. Est-ce qu'il n'est pas écrit souvent « Heureux l'homme qui se confie en toi » Est-ce que c'est écrit? Pas l'homme qui prie ou qui va à l'église. Il est écrit, psaume 40, verset du psaume 40, « Heureux l'homme qui se confie en toi ». Il y a des gens qui prient, ils ne sont pas heureux. Mais je peux vous dire que quand quelqu'un se confie en Dieu, il obtient cette assurance. Mais le bonheur n'est pas lié qu'à la foi. Le bonheur, il est lié à la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, dans les épreuves et dans toutes choses. Voyez, le bonheur n'est pas lié qu'à la foi. La foi sans la grâce, ça ne servirait à rien du tout. Mais la grâce est une réalité. Dieu fait grâce. Cela nous a été rappelé tout à l'heure. Ce pauvre garçon qui rentre chez lui en guenille, qui devait sentir mauvais. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu grâce de son père. Pourquoi? Parce qu'il a eu la foi dans la grâce de Dieu. Le bonheur, il est lié à la foi. Le bonheur, il est lié à la grâce. Le bonheur, il est lié à la crainte de Dieu. Vous connaissez ce texte? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit suivre et son âme reposera dans le bonheur. Le bonheur, il ne dépend pas que de la foi, que de la grâce, il dépend aussi du respect profond que l'on a des choses de Dieu. Comment vous allez écouter cette prédication? Comment vous allez venir tout à l'heure avec cette, en me disant « Oh, j'ai passé une bonne semaine, je pense que le Seigneur va me bénir » parce que quand même, avec la semaine que j'ai passée, ce n'est pas possible autrement. Écoutez, même si vous avez passé une très mauvaise semaine, Dieu veut vous bénir. Et le bonheur, il vient par la grâce de le servir. J'aimerais qu'on lise ce verset. Parce que quand même, ça n'a rien à voir avec la prédication de ce matin. Mais ça ne fait rien. Je ne veux pas désobéir. Psaume 65, regardez le verset 5. Un verset que je vous conseille de méditer. Si vous n'êtes pas heureux dans votre service, si vous n'êtes pas heureux dans votre foi, si vous ne saisissez pas la grâce de Dieu, regardez ce que Dieu dit. Il le dit pour nous, pour toi mon frère. Regardez ce verset, psaume 65, verset 5. C'est l'aboutissement de la grâce, de la foi et de la crainte de l'Éternel. Il doit y avoir un résultat, c'est évident. Psaume 65, verset 5. Heureux, voyez, heureux, celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Bon, c'est notre cas ce matin. Pour qu'il habite dans tes parvis. Nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Vous croyez qu'il y a un bonheur à servir Dieu dans la maison du Seigneur? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que servir Dieu, ça se résumerait à ce verset? Oui, et beaucoup de gens sont dans la religion, dans la tradition, dans la routine, dans le forcing. D'ailleurs, les pasteurs, ils sont pour quelque chose. On est tout le temps en train de dire, et servez Dieu, et faites ceci, et il faut amener des âmes, et ceci et ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand on obéit au Seigneur, ça se fait. Heureux l'homme qui habite ta maison. Vous êtes heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin? Est-ce que c'est une grâce ou est-ce qu'il fallait venir, il faut venir à l'église? Si c'est ça, remettez-vous en question. Dieu sait où tu en es. Dieu sait ce que tu as besoin d'entendre ce matin. Dieu t'aime et Dieu il ne veut pas que tu continues à rester dans un état de végétatif spirituel où tu ne fais pas de progrès, comme Paul le disait aux Corinthiens, je ne vous loue pas car vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Alors il est loup par rapport à d'autres comportements, mais il y a des comportements qui ont besoin d'être cadrés. Et bien c'est peut-être ce qui se passe ce matin. Alors, au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, nous apprenons. Non? Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses depuis que vous marchez avec Dieu? Vous avez appris plein de choses. Oui ou non? Vous avez appris plein de choses. Si vous marchez avec Dieu depuis 10 ans, vous avez appris presque le double de choses que quelqu'un qui marche avec Dieu depuis 5 ans. Est-ce que c'est sûr? Ben non, ça dépend exactement de la soif de la personne. Il y a des gens qui en un an ont fait plus de progrès que des chrétiens qui ont 20 ans de conversion. Il y a des gens qui n'ont fait aucun progrès. Aucun progrès. C'est écrit dans la Bible, vous devriez être des maîtres et vous êtes des enfants. Donc il parle à des gens qui auraient dû grandir et qui sont toujours tout petits. Donc nous apprenons plus ou moins vite, mais quand même, nous apprenons. Et nous avons la joie d'avoir dans notre tête beaucoup de connaissances. C'est une grâce d'avoir plein de connaissances, oui ou non? Vous pourriez ce matin écrire plein de choses. Si on vous disait, voilà, mettez par écrit toute la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Est-ce que ça ferait un gros livre, d'après vous? Vous écririez un gros livre, un petit livre, une page, un confetti? Qu'est-ce qu'il vous faudrait, hein? Alors, ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs, c'est que ce que nous apprenons, ça peut... C'est important, il faut apprendre. Même l'apôtre Paul, qui a reçu des révélations en veux-tu, en voilà, dit souvent, j'ai appris ceci, il a appris des autres, de ses collègues, de ses amis, de ses frères et sœurs, etc. J'ai appris à être content, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Mais il faut que ce que nous apprenons dans notre tête, il faut absolument que ça descende dans notre cœur. Et ça, c'est un des gros problèmes que rencontre l'Église. Beaucoup d'Églises sont tombées dans la théologie, dans la religiosité, etc., etc. Ils ont entendu certaines choses. Quoi de plus simple que de retenir avec son cerveau, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Si vous apprenez des versets par cœur, il n'y a rien de plus facile. Vous pouvez le répéter 10 fois et pour toute votre vie, vous pourrez dire « Oui, je le sais ». Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Mais la question que je nous pose ce matin, je le fais d'une manière importante, sérieuse, parce que je sais que plusieurs ont des difficultés. Combien de fois nous l'avons lu au fait? Tiens, combien de fois vous avez lu Luc 1, 37? Combien de fois vous l'avez lu? 10 fois? 20 fois? Combien de fois? Hein? On l'a lu souvent, etc. Mais est-ce que nous réalisons que Dieu a voulu que cette parole qu'il a adressée par le biais de l'ange Gabriel à Marie, cette parole, elle est là dans le canon des Écritures, au fil des siècles, à tous les siècles, tous les chrétiens ont entendu cette parole, rien n'est impossible à Dieu. Ça aurait pu rester dans l'intimité de la conversation, en plus ça s'est passé dans la maison de Marie, donc ça aurait pu ne pas être divulgué dans les Saintes Écritures. Dieu a voulu que ça soit divulgué. Il y a plein de choses comme ça, on n'aurait pas dû les avoir. Mais Dieu a voulu qu'on les sache. Pourquoi? Parce qu'on en a absolument besoin. Elle est là, il faut que nous recevions cette parole. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous écririez? Si on vous dirait, voilà, je vous demande de mettre sur une page 21-29-7, de me commenter ce verset. Qu'est-ce que vous écririez? Qu'est-ce que vous écririez? Mais ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si cette parole, elle est dans votre tête ou elle est dans votre cœur. Et il faudrait qu'on puisse terminer ce culte en disant, mais tous, même si vous n'êtes pas encore convertis, parce que si vous n'êtes pas convertis, si vous n'avez pas pris le baptême selon la parole de Dieu, ça ne vous empêche pas de faire certaines expériences qui vont vous amener au calvaire et vous amener à la repentance et vous amener à rentrer dans le royaume de Dieu. Mais comme il faut, vous avez très bien entendu ce qui a été dit pendant la présentation de la Sainte Cène. Vous savez, premièrement, l'ennemi. On en parle, la Bible en parle souvent dès que l'homme est entré dans l'histoire, eh bien, l'ennemi a tout fait, et il fait tout pour nous décourager. Il y a un verset dans l'Apocalypse que je cite de temps en temps qui est très 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 sévère, quand il est dit que le diable, il accuse les élus de Dieu, comme tous les dimanches, non, c'est tous les... jour et nuit. Jour et nuit, il peut y avoir un combat spirituel dans notre cœur. Béni soit Dieu qu'il sait nous accorder sa paix et son repos. Mais ça peut arriver. L'ennemi fait tout pour nous décourager. Pourquoi il y a tant de rétrogrades? Pourquoi il y a tant de fils prodigues? Parce que les gens n'ont pas vu, n'ont pas reçu avec leur cœur les choses de Dieu. Le fils prodigue, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il était tous les jours à côté de son père. Le frère aîné, lui, il n'a pas quitté la maison. Il était toujours à côté de son père. Mais il ne le connaissait pas. Et il représente les chrétiens qui sont toujours dans l'église et qui ne connaissent pas Dieu. Et si vous faites la tête, si vous boudez, si vous râlez, vous ressemblez beaucoup au fils aîné. Mais il y a un entretien avec lui et vous verrez ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas quitté l'assemblée. Ah, moi, je n'ai jamais rétrogradé officiellement. Mais Est-ce que je connais mon Père? Est-ce que je connais ce Dieu qui s'est appliqué dans son intelligence infinie à me donner tout ce dont j'ai besoin? Jésus a dit, voici, je vous ai tout annoncé à l'avance. Tout ce dont on a besoin de savoir est consigné dans les Saintes Écritures. Et lorsque Dieu a voulu que cette parole qu'il a adressée à Marie par le biais de l'ange, rien n'est impossible à Dieu, ou ailleurs quand Jésus dit à l'envers, tout est possible à Dieu, c'est la même chose, que ça soit dit d'un côté ou de l'autre, c'est exactement la même chose. Mais quand cette parole, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, quand cette parole est là dans le cœur, rien n'est impossible à Dieu. Vous n'allez pas vous comporter de la même manière. Vous n'allez pas prier de la même manière. Vous n'allez pas chanter de la même manière. Vous n'allez pas adorer de la même manière. Quand vous allez chanter des cantiques comme on a chanté ce matin, ça va, vous n'allez pas les chanter de la même manière. Il y a des gens qui chantent, on se demande pourquoi ils chantent. Mais est-ce que vous aimez chanter? C'est une grâce. Est-ce que c'est biblique de chanter? Ben oui. C'est une grâce. Mes frères et sœurs, si cette parole est dans votre cœur, maintenant, ce soir, demain matin, lorsque vous allez aller au travail, et après-demain, et tous les jours, si cette parole, elle est là, gravée dans votre cœur, je peux vous dire que votre foi fera des progrès. Parce que dans toutes les situations, je dis bien, toutes les situations que vous pouvez imaginer, toutes les situations que vous pourrez traverser, vous aurez cette assurance. Car je crois qu'un chrétien, quand même, lorsqu'il écoute, c'est écrit. Le juste a de l'assurance. Mes frères et sœurs, est-ce que vous n'avez pas besoin d'avoir une grande espérance? Est-ce que ce n'est pas écrit, n'abandonnez pas votre espérance? On en voit des chrétiens qui sont toujours découragés. Je sais, je l'ai été. Je ne suis pas en train de jeter la pierre. Je suis en train d'expliquer que le diable, il essaie de nous maintenir dans un état de désespoir, de découragement, de défaite, afin que nous rendions un témoignage minable et que les églises scandalisent le monde. Et c'est ce que nous voyons quand nous, aujourd'hui, quand on parle des églises par les médias, qui sont très favorables, lorsque les médias parlent des églises, c'est presque toujours pour parler de scandales qui se passent dans les églises. Oui ou non ? Et je peux vous dire que les médias, ils n'ont pas besoin de chercher longtemps. Et c'est leur boulot. Ils ne font pas l'œuvre de Dieu, mais ils font leur travail. Mais nous devrions dire, mais c'est vrai, il faut que ça descende. Je le sais, tiens, je l'ai même lu lundi dernier, j'ai lu ce verset. Rien n'est impossible à Dieu. Ça devrait ragaillardir notre témoignage. Comment demain nous allons nous comporter vis-à-vis des gens qu'on va rencontrer, peut-être même votre épouse, vos enfants. Est-ce que vous n'avez pas envie de leur communiquer la paix, la grâce? Est-ce qu'il est demandé de communiquer la grâce à ceux qui nous entourent? Est-ce que ça nous est demandé de communiquer la paix à ceux qui nous entourent? Et bien sûr, mais ça ne se fabrique pas. Et mes frères et sœurs, nous devons nous poser cette question. Les promesses de Dieu, des paroles comme celle-ci, est-ce qu'elles vous indiquent que c'est là-dedans? Ou est-ce que c'est dans votre cœur? Si beaucoup de chrétiens, vous savez, aujourd'hui, abandonnent Dieu, c'est écrit que dans les derniers jours, il y aura l'apparence de la piété, qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, etc., etc., etc. C'est le genre de discours que je ne veux plus répéter. Mais il faut le faire. Mais si la piété de beaucoup de chrétiens n'est qu'une piété d'apparence, on le voit. Moi, je règle souvent des problèmes de chrétiens. Et quand je discute avec eux, je me rends compte qu'ils ont une piété de façade. Ils ne se sont même pas convertis. Ils croient en Dieu. Ils ont expérimenté la repentance. Mais ils ne se sont jamais convertis parce que la vérité n'est pas descendue dans leur cœur. Jésus l'a promis. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Quelle grâce! La liberté, aujourd'hui la liberté en 2018, dans ce temps où la colère de Dieu approche, où ces guerres qui sont annoncées approchent, eh bien ouais, on peut rester dans la paix. Que le Seigneur soit béni. Que votre cœur ne se trouble pas. La vérité, est-ce qu'elle est où? Mais je ne sais pas, une question piège, c'est une question archi sérieuse. Ce matin, vous devez pouvoir dire, mais c'est vrai, c'est que dans ma tête, quand je vois que toute la semaine, je ne fais que faire la tête. Demandez à votre mari, quelle tête vous avez? Demandez à votre femme, quelle tête vous faites? Parce que des fois, les mieux placés, J'avais lu ça m'avait fait sourire, puis ça, j'avais lu un petit, vous savez les petits signets là. C'est un pasteur qui sourit, il est dans la voiture, il sourit, il sort de l'église, il sourit, et quand il arrive à la maison, sa femme lui dit, tu peux arrêter de sourire, on est arrivé à la maison. C'est une histoire vraie ça par contre. Croire en Dieu et en même temps être incrédule. Oui, c'est pas la première fois. Vous vous rappelez cet homme qui a dit « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » C'est des combats. Mais Dieu vient à notre secours et il nous secourt par sa parole. Il envoya sa parole, psaume 120, verset 7, il envoya sa parole et les guérit. Ou 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Vous croyez que Dieu peut guérir par sa parole? Mais est-ce que nous lui demandons du secours? Est-ce que ce matin, il y a une difficulté à laquelle vous pourriez penser? Pensez à une difficulté. Allez, on va faire un exercice pratique. Pensez à une difficulté. Un de vos enfants qui n'est pas converti, un de vos parents qui n'est pas au Seigneur, un fils prodigue que ça vous afflige. Pensez à une difficulté, à n'importe laquelle difficulté. Je dis bien n'importe laquelle. Et dites-vous, Seigneur, par rapport à ces difficultés, rien ne t'est impossible. Vous le croyez? Seigneur, tu le feras, toi. C'est toi qui le feras. Vous croyez que Dieu peut le faire? À Dieu, rien n'est impossible. Alors, il est hors de question de continuer à apprendre, apprendre pour apprendre. C'est intéressant d'apprendre. Il faut que ça descende dans notre cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons de véritables adorateurs. Vous vous rappelez quand Jésus a dit, mais ce que le Père recherche, ce sont de véritables adorateurs, en esprit et en vérité. C'est quoi un adorateur? C'est quoi un adorateur? Qu'est-ce que c'est un adorateur? C'est quelqu'un qui conjugue le verbe adorer. Je t'adore, donc je suis un adorateur. Nous t'adorons dans ton temple, nous sommes des adorateurs. Est-ce que c'est ça un adorateur? Ben non, il y a des gens qui adorent Dieu, et ils lèvent les bras, et ne sont pas des adorateurs. Les adorateurs, ce sont des personnes qui connaissent Dieu, parce que la parole, elle est descendue de là à là, elle est descendue dans le cœur, et elle communique de l'assurance. Les chrétiens qui adorent Dieu, ils sont remplis d'admiration. Quand le meneur de chant invite, viens adorer le Seigneur, oh oui, je veux t'adorer. Bon, ce matin, j'ai pas de voix, je peux pas chanter, mais je t'adore, Seigneur. Parce que tu es admirable. Vous le croyez que Dieu est admirable? Voilà, on va chanter, je viens t'adorer Seigneur. Mais il y a des gens qui, oui, et je ne veux pas juger. Parce que j'ai traversé moi aussi ces moments où je chantais, je pensais à autre chose. Je le sais, vous ne vous inquiétez pas, on est tous à la même enseigne. Je sais ce que c'est de prendre la Sainte-Seine en ayant de l'amertume dans le cœur. Tout ça, je l'ai vécu, vous inquiétez pas. On a tous les mêmes combats. Personne ne s'imagine, oh, mais eux, ils ont de la chance. Les anciens, ils ne doivent jamais avoir de combat, eux. Les pasteurs, eux, ils sont épargnés des combats. Eh bien, allez les voir, vous allez voir. Ouais. Cette parole, elle a traversé les siècles, comme toutes les paroles. Notre Dieu règne au siècle des siècles. La chorale nous l'a chantée ce matin, vous l'avez entendu? Notre Dieu règne au siècle des siècles. C'est écrit je ne sais pas combien de fois dans l'Écriture, d'une façon ou d'une autre. Vous lisez la parole de Dieu, vous voyez de suite que Dieu règne. Il est tout puissant. Le premier verset de la Bible, vous le voyez de suite. De suite. Bien sûr que vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il est écrit le premier verset? Bien, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, d'accord, monsieur Gaud, mais les savants, ils disent que c'est pas vrai. C'est sûr que Dieu a été très sobre. En quelques versets, il parle. Est-ce qu'il avait besoin de se justifier? Mes frères et sœurs, que vous le croyez ou que vous le croyez pas, que vous doutiez ou que vous doutiez pas, que vous soyez content ou pas, ça change rien. Dieu a créé les cieux et la terre. Il est tout puissant. Il a parlé et il a créé les cieux et la terre. Oui, d'accord, je comprends. Mais moi, j'ai lu que il faut des milliards d'années pour que la terre soit créée. Parce que les galaxies les plus lointaines envoient de la lumière et les galaxies les plus lointaines sont à 15 milliards 300 millions de kilomètres. Les savants, ils ont dit que donc l'univers a 15 milliards 300 millions d'années. Bon. Et après tout, franchement, est-ce que, mais quand Dieu a créé l'univers, au fait, tiens, quand Dieu a créé l'univers, est-ce qu'il pouvait faire en sorte que la lumière des lointaines galaxies arrive en même temps qu'il a créé l'univers? Je pense, hein, que je pense qu'à Dieu, rien n'est impossible. Il peut tout. Oui, je sais bien, monsieur Gauche, je comprends ce que vous voulez dire, mais l'eau du déluge, je vous explique comment les gens me parlent des fois, hein. L'eau, toute cette eau, monsieur Gosset, si c'est vrai qu'il y a eu un déluge sur la terre, monsieur Gosset, que la Bible dit que l'eau a recouvert toutes les montagnes. Et l'eau qu'il y avait au-dessus de l'Everest, monsieur Gosset, elle est où cette eau? Ah mais, vous riez. Mais je peux vous dire que c'est comme ça que les gens fonctionnent. Mais comme, si l'eau a couvert l'Everest, où elle est l'eau? C'est vrai que ça faisait quand même quelques bouteilles, moi je vous le dis. Eh bien, on va le lire. Vous voulez le lire avec moi? Est-ce que ça vous intéresse? Regardez avec moi, c'est dans un psaume. Cette semaine, la semaine dernière, je lisais les psaumes. Et je dis, tiens, elle est là, l'eau. Mais sérieux? Alors laissez-moi le trouver, le psaume. Psaume 104, verset 1er. Regardez bien, mes frères et sœurs, regardez bien. Ça pourrait ne pas être écrit, mais Dieu a voulu qu'on le sache. Comment il a fait? Vous savez, c'est si on ne le sait pas, c'est pas grave. Mais si on le sait, ben, c'est bien. Psaume 104, verset 1. Mon âme bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte, regardez bien, tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Les montagnes se sont élevées. Les vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Eh bien voilà, Dieu a changé la topographie de la terre après le déluge. Mais vous croyez que c'est possible à Dieu? Est-ce que c'est possible à Dieu de changer la topographie des terrains? D'ailleurs, les savants, ça le disent. Mais même, ça ne serait pas écrit. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça, mes frères et sœurs, parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mais si c'est bien de parler de la science, de la topographie, il faut quand même d'abord voir ce que Dieu est capable de faire dans nos vies, mes frères et sœurs. Est-ce que Dieu peut bénir ton âme? Est-ce que Dieu peut bénir ton foyer? Oui, maintenant regardons un peu plus près l'histoire de Jonas. Monsieur Go, un homme, trois jours dans un poisson, mais vous rigolez. C'est déjà arrivé en plus, c'est déjà arrivé. Mais mis à part ça, qu'est-ce que cette histoire de Jonas nous montre? Eh bien que Dieu contrôle tout. Il contrôle les tempêtes. C'est lui qui a provoqué cette tempête. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu voulait montrer sa gloire et Dieu voulait bénir Jonas malgré son esprit de désobéissance. C'est Dieu qui a contrôlé la tempête, c'est Dieu qui a contrôlé le tirage au sort, parce qu'ils ont tiré au sort, c'est pour savoir qui c'est qui a tiré la tempête. Est-ce que vous croyez que Dieu n'a pas aidé un petit peu pour le tirage au sort? C'est Dieu qui est-ce que Dieu anticipe? Il sait tout, le Seigneur. Quand il n'a pas dit au dernier moment, ils vont jeter Jonas dans l'eau, comment je vais faire? Est-ce que Dieu savait quand même qu'ils allaient jeter Jonas à l'eau, qui demandait à Jonas, aurait pu dire, écoutez, ramenez-moi au port, ramenez-moi, je vais prendre notre bateau. Non, lui, mais Dieu savait qu'il n'allait pas obéir encore et il a prévu un moyen de locomotion. Est-ce que Dieu contrôle les poissons? Est-ce que Dieu contrôle tout? Il a même contrôlé un ricin qu'il a fait pousser, tiens, en parlant d'arbres qui poussent vite. En une nuit, il a fait pousser un ricin pour qu'il ait de l'ombre à sa tête. Il en avait quand même besoin, je pense. Et puis il a même amené un petit ver pour sécher le ricin à une nuit aussi. Dieu contrôle les petits vers, les grands poissons, les univers. Il contrôle tout. Il a su changer la topographie du monde pour que les eaux aillent là où il fallait qu'elles aillent. Mais mes frères et sœurs, Dieu contrôle l'Église. Il voudrait la contrôler. Il sait ce qu'il doit faire. Vous savez où elle habitait, Marie, avec Joseph? Ils habitaient où? Ils habitaient à Nazareth, dans la Galilée. Et 500 ans avant, à peu près, je dis ça de tête, 500 ans avant, une prophétie a été donnée par le prophète Michée, « Et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira le Messie. » 500 ans avant, Dieu avait déclaré que le Messie, il naîtrait pas à Bethléem, il naîtrait, pas à Nazareth, il naîtrait à Bethléem, 160 kilomètres plus loin. Ça pose un problème. Comment Marie peut-elle aller accoucher à Bethléem alors qu'elle est de Nazareth? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez la suite. Du temps de l'empereur César Auguste, il décréta un recensement sur toute la terre, afin que chacun aille se faire inscrire dans la ville de leur père. Et comme Joseph était en Judée, à Bethléem, eh bien ils sont partis, 160 kilomètres alors qu'elle était à deux doigts d'accoucher, ils sont partis et elle a accouché, comme par hasard, à Bethléem. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit 500 ans avant qu'il fallait que le Christ naisse à Bethléem. Pourquoi? Pourquoi une nuit, César Auguste à Rome, ça a dû se réveiller? Mais je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est à peu près comme ça. Il a dû se réveiller, il a dit, il faut que je fasse un recensement. Qui a poussé César Auguste, cet impie, à faire un recensement sur toute la terre? C'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Vous croyez que si Dieu a parlé à César Auguste, si Dieu a parlé à un poisson, si Dieu a parlé à un petit ver, etc., 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 vous croyez que Dieu peut parler à un de vos enfants? Et nous, on est là avec nos petites calculettes. Oui, mais... Oui, je sais, mais mon fils, j'assure, il ressemble à son père, si vous saviez comment il est. Nous, on calcule. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ne calculez pas avec Dieu. Nous, on est tout le temps en train de calculer. Et il y a des histoires dans la Bible, elles sont là pour nous montrer qu'il ne faut pas calculer. Combien de temps il faut pour faire un bon vin? Hier, j'ai passé du temps devant mon ordinateur pour savoir combien de temps il faut pour avoir de très bons vins. Ça dépend des classes, des crus, bien sûr. Vous savez jusqu'où ça peut aller? Jusqu'à 50 ans. Parce que le vin, il mûrit, puis après, il y a une période de déclin. Mais il y a certains vins, il faut 3 ans, d'autres 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans. Tapez sur Internet, comment on fait, et vous verrez. Certains vins, 50 ans. Et au bout de 50 ans, ils sont mûrs. Ils sont prêts, ils sont bons. Demandez à un œnologue, il y en a un peut-être dans la salle. Il vous dira, c'est vrai, monsieur Gros, c'est vrai. Il faut 5 ans pour tel Bordeaux, il faut 10 ans pour tel Bourgogne, etc., etc. Combien de temps ça a pris à Jésus, à une certaine fête, pour changer de l'eau à un très bon vin? Parce que s'il était bon, je pense qu'il était vraiment bon. Combien de temps a-t-il fallu à Jésus pour changer de l'eau en vin? Combien de temps? Jésus l'a dit, attendez, il faut dans un mois vous reviendrez parce qu'il faut que les arômes se mélangent avec l'eau. Non, mais ça marche comme ça. Combien de temps il a fallu? Un instant. Et ceux qui étaient là, parce que l'ordonnateur du repas, il ne comprenait rien. Il a été voir le mari, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? On sert le bon vin d'abord, et puis après, quand les gens, ils ont un petit peu été imprégnés, et bien on sert le moins bon. Et il n'était pas au courant. Pourquoi? Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Ce que je vous dis, je l'ai réfléchi. Ce qui s'est passé, c'est que les serviteurs, eux, ils étaient à côté de Jésus. Ils ont vu le miracle. Ils étaient à côté du Seigneur. Et quand Jésus a dit, mais remplissez ces vases d'eau, ils auraient pu dire, mais ça ne sert à rien. Ça, c'est ridicule. Ils l'ont fait, mes frères et sœurs. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont participé au miracle. Quelle expérience c'était pour ces gens? Ils l'ont vu, parce qu'il y en a qui ont dit, mais non, ce n'est pas possible, il était là. Je suis sûr qu'il y en a la moitié qui n'ont pas cru. Mais Jésus a changé de l'eau à un excellent vin à une seconde. Pourquoi? Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible, mes frères et sœurs. Et c'est important de savoir que Dieu peut changer le cœur de quelqu'un à un instant. Vous croyez que Dieu peut changer le cœur de votre mari à un instant? Je crois. Oui, je crois. Mais quand même, mon mari, c'est quelqu'un. Ah oui? Et vous ne vous rappelez pas comment vous avez changé? Parce que vous étiez meilleur que votre mari? Il y a quelqu'un ici qui était meilleur que quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un qui pourrait se lever et dire, mais moi, vous savez, j'ai été sauvé parce que j'étais le meilleur de ma famille. Il n'y a personne qui peut le dire. Si on a été sauvé, c'est parce que Dieu a su toucher notre cœur. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible, mes frères et sœurs. Tout pouvoir a été donné au Seigneur. Je termine avec une pour les pécheurs, pour ceux qui ne sont pas baptisés, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, pour ceux qui sont... Vous allez vous vouer à l'enfer si vous ne prenez pas au sérieux ces choses. Et ne vous appuyez pas sur votre tradition ou sur votre baptême, ou comme ce gars dont on a parlé ce matin à la Sainte-Seine, qui n'avait pas revêtu un habit de noces, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas se repentir et qui s'imaginent que sans la repentance, parce qu'ils sont catholiques ou protestants ou évangéliques, ils vont rentrer dans le royaume des cieux. On entre dans le royaume des cieux par la repentance. Vous rappelez ce jour où quatre amis ont décidé de descendre un de leurs amis paralytiques au pied du Seigneur Jésus? Vous rappelez cette histoire? Elle est merveilleuse. On la connaît, monsieur Gault. Vous la connaissez? C'est bien. Mais est-ce que quelqu'un peut croire que par la foi, on pourrait amener des gens qui sont paralysés? Vous rappelez ce qui s'est passé? Quand Jésus a vu cet homme, qu'est-ce qu'il leur a dit à cet homme? Qu'est-ce qu'il lui a dit à cet homme? Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Et les pharisiens, bien sûr, qui étaient dans le coup, ont dit, mais il n'y a que Dieu qui pardonne. Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur a dit, mais lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche? C'est quoi le plus facile au fait? C'est quoi le plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Alors ça dépend pour qui. Pour nous, le plus facile, c'est de dire tes péchés sont pardonnés. Pour Jésus, le plus facile, c'était de dire lève-toi et marche. Parce que pour que nos péchés soient pardonnés, il a fallu que Jésus meure sur le bois de la croix. Et à un instant, cet homme a été délivré et il a été sauvé. À Dieu, rien n'est impossible. Mes frères et sœurs, j'aimerais que nous sortions de ce culte, j'aimerais que nous sortions de ce culte avec ce verset dans le cœur. Vous entendez, mes frères et sœurs? Est-ce que ce verset, on peut le faire descendre dans notre cœur? À Dieu, rien n'est impossible. Je peux vous dire que si ce verset il descend dans notre cœur, l'Église, elle changera. Si ce verset il descend là, vraiment, dans notre âme, je peux vous dire qu'on ne va plus prier de la même manière. Nos réunions de prière, elles auront de la saveur. Nous aurons des réunions d'adoration. Vous le croyez que quand quelqu'un croit qu'à Dieu rien n'est impossible, il devient vraiment un adorateur? Mes frères et sœurs, à Dieu, rien n'est impossible. Il est le maître de l'univers. Et vous savez, il regarde au cœur. Je ne sais pas comment vous avez appris à écouter cette prédication. Moi, j'avais plein d'examens, je pense que ce n'est pas la peine que je les cite. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on réponde au Seigneur. C'est 11h10. On a un petit quart d'heure. Est-ce qu'on pourrait se recueillir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait se recueillir? Mais vraiment, pour que cette parole, elle descende dans le cœur. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui dit, mais c'est vrai, cette parole, elle est dans ma tête? Luc 1, 37, ça y est, je l'ai mis dans la tête. Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Mes frères et sœurs, c'est bien, c'est bien. On peut prendre un pêcheur dans la rue, lui dire, la semaine prochaine, vous revenez et vous vous rappellerez, Luc 1, 37, oui, oui, il nous dira, oui, 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 rien n'est impossible à Dieu. Et le gars, il revient la semaine prochaine, mais ça n'a rien changé. Et c'est ce qui peut se passer dans la vie de certains chrétiens. Peut-être que quelqu'un est malade ce matin. Peut-être que quelqu'un est anxieux, peut-être que quelqu'un est angoissé. Vous croyez que si vous croyez que rien n'est impossible à Dieu, il ne peut pas vous délivrer de vos angoisses, de votre maladie? Je voudrais que ceux qui ont besoin d'un attouchement, parce qu'on est là quand même pour se bénir. Qu'on a chanté? Jésus est au milieu de nous, je veux vous bénir tous. Peut-être que vous êtes perdu, peut-être que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes voué à l'enfer, vous ne vous occupez pas de votre âme, mais occupez-vous de votre âme, repentez-vous. Peut-être quelqu'un c'est pour le salut, l'autre c'est pour la restauration, l'autre c'est pour la consolation, un autre ça sera pour une maladie psychique, j'en sais rien. Mais moi je crois qu'à Dieu rien n'est impossible. Si quelqu'un veut venir, on reste tous recueillis, on a besoin de se recueillir. Et s'il y a quelqu'un qui dit, mais j'ai besoin d'un attouchement. Seigneur, touche mon âme, touche mon cerveau, touche mon cœur, touche mon corps, touche ma vie intime, touche mon foyer, et il le fera. Rien n'est impossible à Dieu. Avancez-vous, vous qui avez besoin d'une grâce.